se passe-t-il dans mon quartier ? Chaque année, à Reims, les associations, les institutions mettent en place de nombreuses actions. Parfois, vous y participez, sans trop le savoir finalement. Parfois, vous êtes un bénévole actif. Et parfois, malheureusement, vous ne les connaissez même pas. Que se passe-t-il dans mon quartier ? Est une série radiophonique de 6 émissions qui vous fait découvrir des projets qui ont eu lieu durant l'année 2020 à Reims. Aujourd'hui, dernier épisode, épisode 6. Booster. Et aussi les ateliers vélos de Véloxygène. Et les naturels. Booster. Un projet porté par l'association Unicité. Si vous n'avez jamais compris en quoi consistait une mission de service civique, c'est le moment de vous rapprocher de votre poste de radio. Parce que pour mener à bien une action comme Booster, il faut des volontaires en service civique, des envies d'engagement et un bon shaker. Le résultat, des missions en maison de retraite, des missions écologiques, et le tout se sert bien frais.
Alors, moi je suis Mélodie Jaconelli, je suis coordinatrice d'équipe et de projet chez Unicité depuis 4 ans maintenant, donc c'est ma 4e promotion et c'est ma 2e année que je termine avec les programmes Booster et Repair Santé. Unicité, on est une association qui a été créée en 1995 et qui a importé le service civique en France. En gros, c'est 3 jeunes femmes qui se sont retrouvées autour de cette idée, avec l'idée qu'il n'existait plus de dispositif pour accueillir les jeunes qui souhaitaient s'engager, mais qui avaient cette volonté de la part de la jeunesse de s'engager. Et elles avaient aussi fait le constat, c'était des étudiantes plutôt dans des écoles de commerce, et elles faisaient aussi du bénévolat dans les quartiers, et elles faisaient le constat que les jeunes de ces différents milieux avaient des a priori les uns sur les autres, mais que finalement ils ne se rencontraient jamais pour faire tomber ces a priori. Donc c'est pour ça qu'elles ont créé le service civique, pour justement que la jeunesse puisse s'engager. Et pour nous, le service civique, ça se conçoit seulement en collectif, avec des équipes les plus diversifiées possibles, justement pour faire rencontrer ces jeunes qui ne se rencontrent pas dans la vie de tous les jours et pour faire tomber un peu les a priori qu'on peut tous avoir les uns sur les autres.
Alors, quel type de missions sont proposées aux jeunes d'Unicité ? Et tu viens de dire que ça se concevait en collectif par rapport à d'autres structures où les jeunes volontaires sont parfois seuls dans la structure. Donc, qu'est-ce qui découle de ces spécificités-là ?
Alors, sur Reims, on a 3 équipes d'une 20aine de volontaires. Une première équipe donc, qui concerne Booster et qui sont également sur un autre programme Repair Santé. Donc, Booster, c'est une équipe de 20 volontaires avec 10 majeurs et 10 mineurs. Chaque majeur tuteur un mineur et avec lui pendant le temps des missions. Leur mission, ça va être pour certains d'aller faire de la distribution de colis alimentaires dans les Restos du Cœur. Pour d'autres, d'animer, de participer à l'animation de la maison de retraite Wilson. Et j'ai une dernière équipe qui, elle, est plus sur une thématique environnement et qui a été cette année sensibiliser les habitants du quartier Croix-Rouge, Croix du Sud en partenariat avec Plurial sur le tri des déchets. Également en partenariat avec Yo-Yo sur la collecte des bouteilles en plastique. Et qui sont également intervenus avec au niveau du CROUS au restaurant universitaire sur le gaspillage alimentaire. Donc ils étaient tous les midis à la desserte des plateaux à peser les déchets alimentaires et à voir l'évolution sur plusieurs semaines et aussi à sensibiliser sur le tri puisqu'il n'y avait pas de tri des déchets au niveau du RU et donc ils étaient là vraiment à la desserte pour indiquer où allait chaque déchet. Donc ça c'est pour la mission Booster, sachant que les majeurs le jeudi et vendredi étaient sur la mission Hyper Santé puisque les mineurs eux retournaient en cours. Puisque le but c'est de se servir vraiment du service civique comme levier de raccrochage à l'éducation nationale. Donc les majeurs, donc jeudi, vendredi, étaient eux sur une thématique santé. Donc ils ont été pendant toute l'année sensibiliser les enfants sur les thèmes comme l'hygiène des mains. Donc on est bien tombé cette année sur ce sujet-là. Le sommeil et également les écrans. Ils ont fait aussi quelques interventions sur le marché Noël, sur le dépistage et les IST, et également en milieu festif, au niveau de la cartonnerie, sur les risques auditifs. Et en parallèle de ça, on a également organisé quelques clean walk dans l'année, mais les trois étaient prévus sur le confinement. Donc ça, c'est pour Booster Hyper Santé. On a une autre équipe de 24 volontaires qui est sur un projet plus sur les personnes âgées. Donc il y a deux axes. Il y a les voyageurs qui sont là pour accompagner les personnes âgées dans leur mobilité et les connecter. Qui eux sont plus pour accompagner les personnes âgées sur l'utilisation du numérique, parce que le constat c'est que la fracture du numérique touche particulièrement ces personnes-là. Et on a une dernière équipe de 20 volontaires qui eux sont sur une thématique cinéma et citoyenneté, donc qui animent des séances de ciné-débat en lycée et en collège.
Alors pour en revenir à ces binômes majeurs-mineurs, je suppose que les majeurs ils découvrent l'émission via par exemple le site du service civique, mais comment les mineurs arrivent jusqu'à vous ?
Alors, de différentes façons, le bouche à oreille, ça m'est déjà arrivé de recevoir des jeunes mineurs parce que un de leurs parents avait entendu parler du dispositif par d'autres anciens mineurs en fait. On a aussi un gros partenariat avec l'éducation nationale, donc la plupart viennent par ce faisceau-là. J'ai un partenariat avec la mission de lutte contre le décrochage scolaire qui identifie du coup les jeunes qui pourraient bénéficier du programme Booster. Et le dernier faisceau, c'est via le site de l'agence du service civique. Je mets des annonces et ça m'arrive aussi de recevoir des candidatures de mineurs là-dessus.
Si on a envie d'en savoir plus sur les actions d'unicité ou si les missions qui sont évoquées là plaisent à certains jeunes futurs volontaires, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Je sais qu'il y a des réunions d'information en plus ici. Donc comment on a accès à toutes ces infos ?
Alors, différentes manières, soit candidater directement sur le site de l'agence du service civique, soit se rendre sur notre site, donc il suffit de taper Unicité Reims et ça vous renverra vers notre site. Mais dans tous les cas, effectivement, l'étape obligatoire, c'est l'information collective, donc dans tous les cas, vous serez redirigé vers ça, sachant qu'elles ont lieu tous les jeudis à 14h30. Alors, il suffit de s'inscrire sur le site, on les publie, les séances. Bien sûr que sur l'été, il y en a quelques-unes qui n'ont pas lieu, clairement parce que déjà, il n'y a pas tant que ça de jeunes qui s'y inscrivent, et puis parce que ça nous arrive de prendre des congés aussi, donc des fois, il y en a pas tous les jeudis sur l'été, mais la plupart du temps si quand même.
Moi je m'appelle Charlotte et j'ai 22 ans et j'ai commencé mon service civique à Unicité le 2 décembre.
Moi je m'appelle Kim, j'ai 22 ans aussi, j'ai commencé mon service civique en même temps.
Donc aujourd'hui on est dans les locaux d'Unicité, dans le quartier Croix-Rouge à Reims. Vos camarades, collègues, je ne sais pas comment on appelle les compagnons de service civique, sont partis faire la clean walk pendant 1h30 avant un petit temps de barbecue. Donc vous avez bien voulu rester avec moi quelques instants pour me parler un peu de votre mission en service civique. Alors on va commencer de tout le début. Pourquoi vous êtes retrouvée en service civique ? Est-ce que vous aviez des envies particulières ? Enfin voilà, quelles sont les raisons ?
J'étais déjà bénévole au planning familial de la Marne et j'ai entendu parler du service civique en fait sur le site internet du planning familial et j'ai trouvé ça super intéressant. Et ça m'a permis de donner de mon temps pour les autres.
Moi, j'ai choisi de faire un service civique parce que je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Je me suis dit, quand j'ai fait la réunion d'information, j'ai vu qu'on touchait à plein de choses différentes et je me suis dit que c'était le moment d'essayer. Donc, j'ai tenté ma chance et finalement, j'ai kiffé le faire.
T'as découvert Unicité par quel biais ?
Par mes proches, par mission locale, les annonces, les publicités dans la rue, les annonces sur Internet, etc.
Vous voulez bien l'une et l'autre me décrire vos missions ? D'ailleurs, est-ce que vous êtes sur le même type de mission ou est-ce qu'il y a des spécificités ?
Donc en fait, le programme Booster Hyper Santé, c'est 20 volontaires, 10 majeurs et 10 mineurs en décrochage scolaire. On était en binôme en fait. Chaque mineur avait un majeur. Le lundi et le mardi, on était tous sur des thématiques différentes en fait. Donc avec Kim, on sensibilisait nos mineurs à l'écologie. Donc en sensibilisant les étudiants dans les restaurants universitaires sur le gaspillage alimentaire et le tri des déchets. Et on faisait aussi des animations dans les halls d'immeubles du quartier Croix-Rouge. Le mercredi, c'était une journée dédiée à la formation. Et le jeudi et le vendredi, les mineurs retournaient au lycée. Et nous, on faisait des animations de prévention dans les écoles élémentaires sur l'hygiène, le sommeil et les écrans.
Tu as parlé du mercredi qui était dédié à la formation. Donc, quel type de formation ?
Alors, en fait, c'était des formations civiques et citoyennes sur la laïcité, la religion, le respect des autres. Et on a passé aussi le PSC1.
Alors, pour ces temps où vous interveniez autour de l'hygiène, etc., avec les mineurs, vous avez été formée spécifiquement sur ces sujets avant d'intervenir ?
Oui, c'est ça en fait. On a été formés sur ces sujets par des professionnels et ensuite on a monté nous-mêmes les animations.
Donc à chaque fois avec les mineurs.
Alors tout ce qui concernait leur hypersanté, donc quand on était dans les écoles, qu'on faisait les interventions et tous les mineurs, ils n'étaient pas concernés. Ils étaient seulement là vraiment pour tout ce qui est mission écologie et pas au resto du cœur. C'est surtout pour une réinsertion scolaire pour eux et nous ce serait plus pour trouver notre voie, je dirais.
C'est difficile d'encadrer, c'est moche de dire mineur, mais d'encadrer un volontaire plus jeune que soi qui est déjà en difficulté scolaire. C'est beaucoup de responsabilités. Vous avez trouvé ça finalement assez aisé ou ça oblige à se poser beaucoup de questions sur sa façon de faire les choses, etc.
Personnellement, j'ai trouvé ça assez difficile. Difficile puisqu'en fait, on ne connaît pas leur histoire personnelle, sauf s'ils acceptent de nous en parler. Voilà, en fait, souvent, c'est des jeunes qui ne sont pas allés à l'école depuis un certain moment. Pour leur redonner envie, c'est pas simple.
Moi, j'ai trouvé ça assez simple, mais j'ai eu un mineur, entre guillemets, assez facile. Je l'ai vite mis à l'aise, on a vite commencé à parler, même s'il est timide, etc. Pareil, il n'aimait pas trop l'écologie, mais il faisait un effort et finalement, il y allait quand même.
Donc on est en 2020, et en 2020, votre joli petit programme que vous m'avez annoncé a été, je pense, stoppé net par le confinement. Alors qu'est-ce qui s'est passé de votre côté, aussi bien pour vous que pour les mineurs, pendant ce temps de confinement ?
Du coup, les mineurs, ça n'a pas vraiment stoppé le service civique, mais ils devaient rester confinés. Et après, les majeurs, c'était sur la base du volontariat. Moi, je me suis inscrite sur le site de la réserve civique. J'ai aidé l'armée du salut pendant le confinement. J'ai également monté des formations que j'ai diffusées dans toute la France en visio sur la contraception, les IST et l'IVG. Et du coup, après le confinement, on a dû réadapter les missions aussi. Mmh. Et après, j'ai fait du coup l'armée du salut et l'épicerie sociale.
Tu nous parlais des formations que tu avais proposées via Visio. C'était dans le cadre d'Unicité avec peut-être l'aide du planning dans lequel tu étais bénévole avant ou...
Oui, c'était dans le cadre d'Unicité. Par contre, je n'ai pas eu d'aide du planning familial. Mais j'ai collaboré avec des médecins, des sages-femmes et des infirmières que j'ai démarchées moi-même.
Moi, j'avais trop peur pour être volontaire. Du coup, j'ai assisté qu'aux formations que le formateur nous faisait. Et sinon, je ne me suis pas déplacée pendant le confinement.
Vous avez gardé des liens, parce que vous nous avez dit que les mineurs étaient confinés. Vous, c'était sur la base du volontariat. Vous avez gardé des liens avec les mineurs pendant les temps de confinement ?
Moi, j'ai pris des nouvelles de mon mineur et des mineurs dont j'estimais que les majeurs n'allaient pas prendre de nouvelles. Mais tout allait bien pour eux, ils continuaient à avoir les cours, etc.
J'ai pris des nouvelles de mon mineur. Après, c'était des banalités, hein, puisque j'étais pas proche de lui. Et je sais que c'était assez difficile pour lui, puisqu'il était déjà décrocheur scolaire. Donc, suivre les cours par correspondance, c'était pas simple.
Alors, on arrive vers la fin de votre mission, c'est ça ? Pour toutes les deux ? C'est quoi vos perspectives pour après ? Est-ce que ce temps de service civique vous a permis de réfléchir un peu à l'après, ou est-ce qu'Unicité vous a aidé à préparer l'après ?
Moi, tout ce qui était mission hyper santé, ça m'a donné envie de travailler dans le périscolaire, mais tout ce qui était niveau activité, animation, ça m'a donné envie de travailler dans l'animation. Donc je veux rester dans ce qu'on a fait à Unicité, dans la prolongation de ce qu'on a fait, l'animation ou du périscolaire.
Moi, du coup, j'ai vraiment été touchée par le milieu social puisqu'à la base je suis laborantine et j'ai décidé de continuer dans cette voie-là. Donc j'ai fait une demande à l'IRTS de Reims pour devenir assistante sociale et j'ai été acceptée. On m'a proposé de siéger, c'est ma coordinatrice Mélodie qui me l'a proposé, de siéger au conseil départemental de la jeunesse, du sport et de la vie associative. Donc je crois que c'est en tant que consultante. On m'a proposé, j'ai accepté. Après, je ne sais pas si ça va vraiment se faire.
Alors, il y a beaucoup de jeunes en service civique à Unicité par rapport à d'autres structures où il peut y avoir des volontaires en service civique. Vous savez le nombre pour votre promo ?
72. On est 20 par mission,
à peu près.
Plus du kiosque, parce qu'on a le kiosque en haut. Mm. Eux, ils envoient ailleurs, mais je ne sais pas si ça compte. Je dirais une soixantaine. Au début, j'hésitais vachement et finalement, je me suis dit balance-toi et j'ai adoré ce que je faisais. Et même si à la fin, on ne trouve pas sa voie ou ça apporte beaucoup de choses, on rencontre des gens, nous, je vois, on a été vachement ouverts tous ensemble, on a vachement partagé, que ce soit à l'extérieur ou dans les locaux, on a beaucoup partagé. Et franchement, ça m'a apporté beaucoup.
Ben moi, je conseillerais aux gens de ne pas écouter les autres et de se faire leur propre avis. Et surtout de ne pas oublier que le service civique, ce n'est pas un travail. Et oui, je trouve que ça apporte beaucoup sur le plan personnel. Ça m'a fait tomber des préjugés dont je n'avais pas conscience sur les autres.
Entre deux confinements, Radio Primitive s'est rendue dans les locaux de Véloxygène. Véloxygène propose de nombreux ateliers vélo dans les quartiers rémois. Vélo-école ou atelier d'aide à la réparation. Et même si l'agenda a été quelque peu contrarié cette année, ça ne les a pas empêchés de pédaler et de réparer et de pédaler.
Bonjour, je suis Jason Van Gulik. Alors, je suis salarié de l'Oxygène. Là, je suis à mi-temps. Je suis, on va dire, responsable d'atelier, mécanicien. Je suis sur les ateliers mobiles aussi. Et puis, je participe aussi aux réunions avec la mairie pour avoir un petit peu plus de voies cyclables, mieux aménagées, tout ça. Là, on se retrouve à l'atelier principal. C'est dans les locaux du foyer Pain d'Avoine, voilà, qui nous le met à disposition en échange de services qu'on rend aussi pour les jeunes du foyer. On a aussi un autre local qui est au recyclable, voilà, où on fait aussi des ateliers.
Donc tu viens en te présentant et en nous parlant de tes missions, de nous exposer un peu ce que faisait Véloxygène, mais peut-être qu'on peut revenir un petit peu en arrière.
Alors on va revenir vachement en arrière.
Revenons
parce que moi finalement Véloxygène je connais que depuis que je suis rentré à Reims il y a 3 ans. Et en commençant comme bénévole, je me suis aperçu que l'asso avait quand même déjà 20 ans. Même, enfin c'est bon, ils ont fêté leur 20 ans l'année passée. Donc l'asso date pas d'hier, hein. Il y a beaucoup de plus de 65 ans qui sont investis et qui étaient déjà là à la création de l'asso, qui continuent à être dans le CA et à faire fonctionner, qui sont sur les postes clés en tout cas. Et ça fait en gros 20 ans qu'ils sont sur la défense du vélo en milieu urbain, voilà, pour favoriser les déplacements en vélo sur Reims et aujourd'hui sur le Grand Reims.
Donc Véloxygène fait partie des structures qui ont des projets qui sont inscrits dans le dispositif politique de la ville depuis plusieurs années déjà. On en avait déjà parlé l'an passé. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour vous en 2020? Quel était déjà le projet initial et comment peut-être a-t-il muté pendant la période de confinement et après?
Alors cette année, on a voulu principalement travailler avec les maisons de quartier. On a ciblé 4-5, Wilson, Châtillon, Europe, et là aussi Maison Blanche. Voilà, c'était un projet qui datait déjà il y a 2 ans, qui pouvait se réaliser cette année. Donc le but c'était d'aller, à partir du printemps, réaliser des ateliers mobiles. C'est-à-dire que nous on vient avec un atelier qui peut se déplacer sur des roues pour faire des réparations, soit pour les habitants autour de la maison de quartier, soit pour notamment Maison Blanche, on l'a fait, soit pour des jeunes qui pouvaient après partir en balade avec les vélos. Voilà, donc cet été, enfin, avec le confinement, tout ça, bien sûr, a été remis en branle et en question. Donc toutes les activités qu'on devait effectuer à partir du printemps n'ont pas pu se faire. Donc on s'est revu début juillet pour quand même caler quelques activités, notamment avec Châtillon, Wilson et Maison Blanche. C'est-à-dire que pendant les animations qu'ils avaient réussi à maintenir au mois de juillet, on est venu faire et des ateliers mobiles, et des balades aussi, voilà, encadrement de jeunes. On part à 8-10 jeunes, nous on vient à 3-4 personnes de l'association et on leur fait découvrir qu'est-ce que ça peut être un déplacement de plus de 10 km, parce que là notamment on a fait un aller-retour jusqu'à Sillery, voilà, sur la coulée verte, hein, très simplement. Mais voilà, pour leur redonner un petit peu le goût à l'effort et puis de voir que c'est pas si compliqué non plus de faire 25 km sur une journée, quoi.
Pour la plupart, c'est un peu des premières de partir si loin à vélo, enfin non, si loin entre guillemets.
Pas vraiment, parce que les animateurs, notamment de Châtillon, ils avaient déjà fait ça. À Maison Blanche, ils l'avaient fait un petit peu. Eux, ils voulaient même aller jusqu'au feu de Verzy, mais on leur a dit bon, allez-y tranquillement, sinon voilà, ça va leur chauffer les cuisses. Mais ouais, alors, vraiment, il y a des niveaux très très différents. Il y en a qui font quasiment jamais de vélo, ou alors vraiment dans le quartier pour faire des roues arrière, quoi. Et puis il y en a qui avaient déjà pratiqué, qui sont déjà allés sur la coulée verte, qui sont même allés jusqu'à Sillery. Voilà, c'était assez épars comme niveau.
Au niveau des jeunes qui ont participé aux ateliers, on est sur quelle tranche d'âge? Ça va des tout petits ou c'est plus du public adolescent?
Alors sur les ateliers mobiles, voilà, ça va de 2 ans sur les premiers petits vélos qui ont déjà des petits soucis à un public adulte. Voilà, hein, quand c'est sur des ateliers mobiles comme ça, on est en Vachetier, on était sur la place des Argonautes et là après pendant 3 heures, bah, qui vient nous, on est là, l'action est gratuite, c'est-à-dire que même les pièces, les petites pièces comme des caisses de frein, des chambres à air, voilà, nous on les met à disposition. Donc le but c'est de faire ressortir les vélos des caves, entre guillemets, et de pouvoir les remettre en circulation au plus vite, quoi. Voilà, même pour des adultes qui finalement commencent à se poser la question de est-ce que je ferais pas du vélo plutôt que de prendre le bus ou le tram, vu la situation qui est un peu compliquée sanitairement, quoi.
Justement, le regard des gens sur le vélo comme moyen de déplacement a un peu changé ces derniers mois. Est-ce que vous l'avez repéré, même vous, au cours des années, la façon dont vous abordez
Alors moi, comme j'expliquais au tout début, je suis revenu à Reims il y a 3 ans, après avoir été en Nord de France et puis en Belgique. Donc bon, moi j'avais déjà une idée du vélo qui était un peu plus avancée dans mon quotidien. Mais déjà, moi, en 3 ans, j'ai vu du changement, voilà. J'ai vu que les voitures faisaient un petit peu plus d'attention, j'ai vu qu'il y avait quand même un peu plus de place pour les vélos, qu'il y a des pistes qui se créaient, que je crois qu'il y a quand même des gens qu'on soit marre de prendre leur voiture, soit en fait plus les moyens, parce que finalement ça coûte déjà assez cher, et puis qu'ils se rendent compte que finalement Reims c'est quand même une grosse galette, quoi. Enfin, c'est quand même pas compliqué de faire du vélo à Reims, hein. J'ai vécu dans des villes où il y avait des beaux dénivelés et il y avait encore des gens qui faisaient du vélo. Donc à Reims, vraiment, à part pour aller à Pommery, c'est qu'il n'y a pas de difficulté. Donc après, on sent toujours que les gens, c'est de l'insécurité. Il y en a pas mal qui ont peur, il y en a pas mal qui sont pas assez aguerris pour prendre le vélo sur des routes qui n'ont pas de pistes séparées. Et ça, voilà, c'est assez compréhensible. C'est aussi pour ça que l'association continue aujourd'hui à travailler avec la mairie, parce qu'on a signé une convention qui ne nous engage pas non plus beaucoup, mais qui engage un travail en fait sur du long terme. Voilà. Et on sent qu'ils ont quand même envie que ça se passe un petit peu autrement, en tout cas de proposer des alternatives. Voilà. Parce que circuler en voiture à Reims, ça reste entre guillemets trop facile. Donc il n'y a pas de contraintes. Donc voilà, il y a encore beaucoup de voitures, et notamment des petits bouchons, parce qu'on parle de bouchons, ça me fait aussi un petit peu sourire.
Alors quels sont les projets pour Véloxygène pour la fin d'année 2020 et l'année 2021, que ce soit d'une part, d'un côté, pour les projets toujours dans le cadre politique de la ville, et d'autre part pour l'association tout court?
Alors les projets, ça va être déjà de finir le dispositif coup de pouce dans lequel on s'est mis à la sortie du confinement, c'est-à-dire il y a une aide de l'État pour faire prendre en charge 50 euros de réparation ou des séances de vélo-école. Voilà, donc ça a été un vif succès, même pas pour nous, limite un peu trop, parce que ça nous a sorti de notre fonction première d'atelier d'autoréparation. Là, on a re-rencontré les maisons de quartier pour voir ce qu'on pouvait entamer justement sur la fin de l'année, voir ce qu'on pouvait rattraper, entre guillemets, déjà sur quelques actions, notamment Orgeval, qui vont se faire mi-octobre. On va développer l'atelier mobile. C'est-à-dire que là, on est en train d'acheter un cargo électrique pour faire tous nos déplacements de l'atelier mobile en autonomie, sans voiture, ce qui sera plus cohérent. Et puis, le faire le plus possible avec les maisons de quartier à partir du printemps de l'année prochaine. Voilà. Donc là, il y a on parle aussi de rembaucher des gens, notamment sur la vélo-école, pour développer la vélo-école, parce qu'il y a un gros besoin, il y a une nécessité en fait d'aider les gens à apprendre à circuler et puis à avoir des bonnes manières, parce qu'en ce moment tout le monde fait un petit peu ce qu'il veut, donc ça pose des problèmes un petit peu de guéguerre entre les différents modes de déplacement. Quand je dis en plus c'est pas qu'avec la voiture, hein, c'est avec les piétons que ça se passe, hein, voilà, donc il faut rétablir un petit peu ça et voilà, être présent en fait sur des questions un peu plus sociales. Voilà, ça va être quand même notre but, quoi. Pas forcément aller vers des entreprises tout ça pour offrir des services, parce que je pense qu'il y a des gens qui commencent déjà à le faire, et puis le but de l'association c'est quand même d'aider à développer le vélo, d'aider les gens à faire du vélo, quoi, concrètement, quoi. Voilà.
Si on peut vous joindre.
Alors, nous avons le site internet, je n'ai pas l'adresse, mais qui est quand même facilement trouvable sur internet. Il y a aussi la page Facebook qui est actualisée pour vraiment les toutes dernières infos. Voilà, il y a tous les mails de contact, atelier, contact normal, général. Voilà. Et puis, bien sûr, le foyer Pain d'Avoine est ouvert, enfin, l'atelier du foyer est ouvert les mardis, mercredis, jeudi de 16h à 19h, le premier samedi du mois de 10h à 13h. Et nous avons deux séances recyclables les vendredis de 16h à 19h. Et là, il faut consulter le programme du recyclable pour soit des ateliers en libre-service, soit des petites vélo-écoles aussi. Voilà.
Que se passe-t-il dans mon quartier ?
I'm sorry.
Dernier rendez-vous pour notre série radiophonique. Un rendez-vous pris tout au début de l'été 2020, à la Maison de Quartier Europe, avec les naturels. Ateliers de récup, de déco, projets autour de la biodiversité. Si tout n'a pas pu se mener comme prévu cette année, de jolies envies sont néanmoins nées. Et des bénévoles soudés n'ont pas démérité.
Je suis Karine Drumaguet et je suis la coordinatrice de la Maison de Quartier Cernes Europe.
Bonjour, je suis Jessica, bénévole à la Maison de Quartier Cernes Europe.
Si aujourd'hui on est à la Maison de Quartier Cernes Europe, c'est pour parler d'un projet qui s'appelle Les Naturels. C'est bien ça. Voilà. Mais avant d'évoquer plus particulièrement ce projet, comment il se déroule, on va peut-être refaire un petit retour arrière sur ce qu'est une maison de quartier et sur ce qu'est plus particulièrement la maison de quartier Cernes Europe.
Alors, une maison de quartier, c'est un établissement ouvert à tous, déjà dans un premier temps, qui permet de développer des services, des projets sur un territoire défini en lien avec les habitants. Alors, à Cernes Europe, on a plusieurs axes. Hein. On a déjà les services de permanence, comme les assistantes sociales ou la PMI, par exemple. Nous avons des activités socioculturelles qui permettent aux gens de s'inscrire sur des activités, que ce soit sportives, relaxation, manuelles ou autres, pour adultes et pour enfants. On a la partie projet, où l'on développe des animations régulièrement pour donner de la vie à ce territoire et toujours en lien avec les bénévoles, les habitants et les nombreux partenaires que l'on peut avoir sur ce quartier.
Donc la maison de quartier Cernes Europe est dans le quartier Europe. On se trouve où précisément ?
Alors nous, on est plutôt du côté, effectivement, Europe, en face d'une grande place qui s'appelle la place Jean Moulin, et sur laquelle on peut effectivement faire régulièrement des événements qui nous permet aussi d'être en lien avec les organismes logeurs, avec les commerçants et bien d'autres partenaires sur ce territoire.
Naturel. Donc, c'est un joli mot déjà. L'histoire de ce projet, comment il a commencé et quand ? Parce qu'on n'est pas dans une action qui débute, là.
Alors non, ce projet a commencé début 2020. Voilà. On l'a pensé fin 2019 avec un groupe de bénévoles. Donc, essentiellement des femmes en volonté de travailler sur un sujet qui leur tenait à cœur et qui leur parlait surtout, puisque certaines d'entre elles ont des passions, hein, que ce soit de bricolage ou de fabrication de produits naturels. Et il est vrai que c'est quand même une volonté déjà de l'axe stratégique de l'Association des maisons de quartier. On s'est dit que c'était aussi une volonté nationale quand même d'arriver à des actions qui travaillent sur la récupération, sur donner une seconde vie aux objets, sur ne plus jeter. Hein, on est beaucoup on arrête le plastique, ce genre de comment d'envie. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas acerner, se saisir de cette question et d'en faire un beau projet. Voilà. Donc, 10 personnes, 10 bénévoles se sont réunis et ont réfléchi à comment on peut mettre en place à l'échelle du territoire des actions, des activités pour faire prendre conscience aux gens, aux habitants, de la nécessité aujourd'hui de ne plus gâcher, d'être dans le développement durable et d'être dans l'éco-citoyenneté.
Alors on ne l'a pas précisé, mais naturel, c'est en deux mots.
Naturel, c'est en deux mots. Alors ce mot, il a été choisi par les bénévoles, hein, vraiment par le groupe. Voilà, il y a une réflexion de fait à la fois sur le nom du groupe et à la fois sur le nom des ateliers qui sont Brico Récup et Cosmétique. Alors à chaque fois, ce sont des jeux de mots, effectivement. Donc vous avez nature apostrophe L, L, qui représente effectivement ces femmes qui s'investissent dans ce groupe, puisque c'est un groupe féminin. Voilà, qui n'est pas fermé, hein, mais qui pour l'instant est essentiellement féminin. Et ça les représente bien, je trouve.
Alors avant de continuer sur là où on en est aujourd'hui dans ce projet, c'est possible de nous expliquer comment vous êtes devenu bénévole à la maison de quartier? Comment vous êtes retrouvé par la suite dans ce projet naturel?
J'ai commencé, oui, effectivement, je suis rentrée dans la maison de quartier pour la CIP.
Oui. Donc les ACIP, c'est des ateliers qui sont
d'intégration. Ouais. Et par la suite, du coup, je me suis investie de plus en plus dans la maison de quartier.
Résidente du quartier Europe?
Oui, depuis toujours. 34 ans, quoi.
Et qu'est-ce qui fait qu'une fois qu'on a poussé la porte de la maison de quartier, on a envie de continuer à venir par la suite et de s'investir en tant que bénévole?
Il y a l'ambiance, il y a... Comment dire? La relation entre bénévoles, entre employés et bénévoles, et ça donne envie de rester, quoi, et de s'investir de plus en plus.
Donc là, on est à l'heure d'aujourd'hui, on est en juin 2020. Le projet a donc débuté déjà depuis quelques mois, avec sûrement, malheureusement, une pause à cause du Covid. Mais où on en est aujourd'hui?
Alors effectivement, le projet a vraiment bien démarré dès janvier, avec deux ateliers dont je vous ai énuméré les noms tout à l'heure. Donc Brico Récup, tenu par une des bénévoles qui fait partie du groupe de création des naturels, qui se fait à la ruche, hein, qui est notre annexe sur la place Jean Moulin, et qui a pour but effectivement de redonner une seconde vie aux objets, de ne pas jeter ou de fabriquer des décorations pour chez soi avec des produits de base naturelle.
Donc la ruche qu'on voit quand on se gare sur le petit parking en face de la maison de quartier, c'est une partie intégrante de la maison de quartier Cerné Europe?
Complètement, puisque ce sont des bénévoles et des adhérents de la maison de quartier qui ont accès à cette annexe et qui font des ateliers complètement en lien avec la maison de quartier. Donc il y a l'atelier Brico Récup, mais nous avons aussi les tricoteuses et les couturières qui sont dans cette annexe et qui sont bénévoles à la maison de quartier tout au long de l'année aussi. Et nous avons commencé aussi un atelier qui s'appelle Cosmétique. Alors c'est dans le même esprit, hein, de fabrication de produits naturels pour le corps, de bien-être et aussi de produits ménagers. Voilà, donc on reste toujours dans cet esprit de développement durable, bien évidemment. Donc ces ateliers ont bien commencé, ont dû malheureusement s'arrêter avec la crise sanitaire. Sauf que nous avons, pendant le confinement, créé une chaîne YouTube qui ont permis de perdurer un peu ces ateliers au travers de vidéos que les bénévoles ont fait sur des petits bricolages ou des recettes de gommage pour le corps. Voilà, donc on a pu continuer malgré tout pendant le confinement à partager avec les habitants, avec ceux qui avaient la possibilité d'aller voir notre chaîne YouTube ou sur Facebook au travers des réseaux sociaux, voilà, de partager ce beau projet.
Des petits tutoriels, en fait, qu'on pouvait retrouver sur YouTube. À quelle adresse ?
C'est la chaîne qui s'appelle Maison de quartier Sarnay Europe. Voilà.
Tout simplement.
Tout simplement.
Comment ça se passe, les ateliers, que ce soit à la ruche, enfin les ateliers de bricolage ou de cosmétiques, il faut s'inscrire à la maison de quartier ? Est-ce qu'on doit venir avec du matériel ? Est-ce que c'est mis à disposition ?
Alors, étant donné que c'est effectivement un projet qui est financé dans le cadre d'une demande de subvention, les personnes s'inscrivent. Il y a quand même entre 10 et 12 personnes sur chaque atelier, donc je trouve que c'est quand même pas mal pour un début. Et nous fournissons le matériel pour les personnes pour l'instant, et puis après... On espère dans le futur que ce soit un atelier qui perdure. Et voilà, et quand si ça n'est plus dans le cadre d'un financement contrat ville-État, les personnes pourront effectivement amener leur propre matériel. Mais il faut savoir que dans le cadre, par exemple, du projet Brico-Récup, les personnes amènent des choses de chez elles en disant voilà, je veux le customiser, au lieu de le jeter, je veux le transformer. Voilà. Il y a aussi cette partie. Je retape et je ne jette pas, quoi.
Alors, on a fait un point sur ce qui a déjà été mis en place. Maintenant, le projet va continuer. Donc, je laisse dérouler l'agenda et les envies futures.
À partir de juillet, le 4 juillet, en fait, on fait un... nettoyage du quartier et on invite tous les habitants à participer à cet acte citoyen. D'autres dates seront prévues de nettoyage. Et à partir de septembre, donc, c'est reprise de l'atelier Brico-Récup à la ruche. Il y aura un créneau supplémentaire, ça sera le jeudi et vendredi matin.
Donc pour le nettoyage du quartier, vous allez faire quoi ? Concrètement, ça va se passer comment si des gens ont envie de vous rejoindre ?
Donc ça va être de 10h à midi et...
En fait, on fera des petits groupes, voilà, oui. Selon le nombre de personnes. Et on va se partager. On a déjà fait une rencontre avec les organismes logeurs.
D'accord.
Pour savoir un petit peu quels étaient les endroits stratégiques sur le territoire. Notamment, donc nous, on a Reims Habitat et Foyer Rémois. Hein. Selon le nombre de personnes, on se partagera un petit peu les tâches. Donc c'est bien parce qu'en extérieur, on peut effectivement respecter tous les protocoles sanitaires en vigueur. On va distribuer le matériel, genre gants, sacs poubelles, etc. Et effectivement, comme disait Jessica, c'est pour nous un acte citoyen de participer quand même au bien-vivre, au bien-être de son quartier. Et on pourra nettoyer et faire de ce quartier un quartier propre et agréable à vivre.
Plus d'ateliers pour la rentrée, donc deux créneaux supplémentaires.
Un créneau supplémentaire.
Et pour les cosmétiques ?
Alors les cosmétiques, c'est en attente puisque malheureusement la bénévole qui s'occupait de cet atelier-là ne pourra pas le continuer à la rentrée pour des raisons personnelles. Et du coup, on va voir si dans le groupe des 10 bénévoles investis, il y a possibilité d'avoir une personne qui puisse reprendre le flambeau.
Donc on avait prévu une friperie au mois d'avril. Oui. Du coup, malgré les circonstances, ça a été annulé. Et donc, on compte la reporter d'ici avant la fin de l'année.
Le principe de la friperie, c'est que tout le monde pourra amener des choses à vendre ou c'est des choses qui sont déjà à la maison de quartier ?
Non, vraiment le principe, c'est que les personnes prennent un emplacement, entre guillemets, dans la structure. Ça a ça a plusieurs impacts. Le premier, c'est de faire connaître aussi la structure, de permettre aux gens de rentrer dans la structure et de savoir ce qu'on y fait. De pouvoir échanger et de parler un petit peu de tout. Et à la fois permettre aux personnes, effectivement, de venir vendre ses propres vêtements. Donc, les conditions seront quand même qu'il faut respecter des petits prix. Voilà. Ce sera vraiment la condition de l'inscription. C'est pas plus de 2€ le vêtement pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, ça permet aux personnes à la fois de faire du vide chez elles et de se faire un petit peu d'argent, et à la fois aux personnes qui ont besoin de trouver des vêtements vraiment à des prix très corrects. Et on est toujours dans le redonner une seconde vie aux vêtements et ne pas jeter, quoi.
Sans avoir besoin d'Internet.
Sans avoir besoin d'Internet.
Et parce que là, on est dans papoter l'humain. Avec un petit café, etc.
Et complètement, complètement. Dans l'échange, le petit café, le partage, la discussion. Et puis voilà, on espère que les conditions nous permettront de mettre ce temps fort, qui était le temps fort du projet, rapidement en place. Et on peut dire un petit mot aussi sur la résidence Jean Dorbé, avec qui on devait travailler aussi avec les enfants, pour faire des bijoux à base de capsules de café, donc toujours dans la récup.
On peut repréciser ce qu'est la résidence, pour ceux qui ne connaissent pas.
Alors la résidence Jean Dorbé, elle fait partie intégrante du territoire. Elle accueille des personnes âgées qui sont résidents au quotidien dans cet établissement. Et nous, on souhaitait faire de l'intergénérationnel avec les résidents et pouvoir faire des ateliers ensemble de travaux manuels. Donc, comme je vous l'ai expliqué, faire des bijoux et qu'on aurait pu présenter à leur marché de Noël et au nôtre aussi, puisqu'on avait parlé aussi, nous, de mettre en place un marché de Noël qui n'existe pas sur la structure. Mm-hmm. Donc, ça aurait pu faire un vrai lien. Donc, on espère vivement et on attend avec impatience de pouvoir revoir ces résidents et pouvoir accéder rapidement à l'établissement pour remettre en place ce projet.
Moi, j'aimerais bien savoir quel est votre rôle précisément en tant que bénévole. Est-ce que vous êtes sur les ateliers de bricot ? Est-ce que vous êtes plutôt dans les personnes qui préparent les agendas et qui répartissent les rôles, etc. Comment ça se passe ?
Moi, je suis beaucoup dans l'organisation.
La friperie, elle est force de proposition. Et puis, on décide ensemble de comment on va communiquer, comment on va mettre en place... exactement les tables, etc., les horaires, les jours. Voilà, c'est toute la partie organisationnelle, Jessica.
Ça représente combien d'heures par semaine à la maison de quartier ? Alors là, effectivement, ça a été un peu chamboulé ces derniers temps, mais...
Souvent, quand même.
Le problème des bénévoles, c'est qu'ils comptent jamais leurs heures.
Ouais,
alors, ils peuvent pas dire. Mais presque tous les jours...
Une dizaine d'heures.
Oui, une bonne dizaine d'heures, oui.
En plus, Jessica va aussi intervenir avec nous dans le cadre de la cantine du centre de loisirs.
D'accord.
Donc, elle va s'investir aussi auprès des enfants. Donc, voilà.
La plupart des bénévoles, donc une dizaine de bénévoles sur le projet naturel, ils sont aussi investis sur d'autres projets. Ils ont généralement plusieurs casquettes au sein de la structure.
Complètement. C'est des bénévoles. Par exemple, la personne qui est sur l'atelier Brico Récup, elle a aussi complètement refait la décoration de la ruche. C'est une graphiste, donc décoratrice. Donc voilà, elle a fait toute la peinture. Elle s'est investie aussi déjà dans la ruche avant de faire ce projet-là. Nous avons Capucine qui était sur l'atelier cosmétique. C'est une maman qui nous mettait ses enfants en garde, qui après a commencé à être avec notre référente famille sur le café des mamans du vendredi matin. Jessica qui est parmi nous sur la fête de quartier, pratiquement toutes sont aussi sur la mise en place des grands événements de la maison de quartier, fêtes de quartier, fêtes de Noël. Oui, ce sont des personnes qui se sont réunies pour ce projet parce que il y a des affinités, parce qu'il y avait une réelle envie de faire ensemble, complètement. Et c'était un sujet qui leur parlait, je pense, qu'elles avaient déjà cette envie. Il y en a déjà qui bricolent beaucoup, je pense à Valérie aussi, qui fait partie du projet, qui est aussi sur les AI, anciennement ACIP, comme Jessica, et qui nous a fait aussi pendant le confinement des photos de bricolage, qui nous a montré de magnifiques bricolages qu'elle faisait chez elle et qu'elle partage, en fait. On est vraiment dans la notion, elles ont envie de partager leur savoir-faire.
S'il fallait passer un message aux habitants et sûrement beaucoup habitantes du quartier, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour qu'elles viennent à la maison de quartier, pousser la porte, voir comment ça fonctionne ? Parce qu'il y en a sûrement qui n'osent pas ou qui pensent qu'elles pourraient rien faire ici ou que ça. Je pense que le mieux, c'est de demander à une bénévole, parce que je suis sûre qu'elle a des meilleurs mots pour convaincre.
Ici, on trouve des affinités, de l'amitié, du partage, des valeurs, des bons moments, beaucoup de bons moments. fière et fière de pouvoir les réaliser, surtout comme LOL est naturel. C'est une grande fierté. Oui.
Avant de se quitter, est-ce qu'il est possible de rappeler les coordonnées de la maison de quartier ou en tout cas comment on peut vous contacter si on est intéressé en tant qu'habitant pour en savoir plus, etc.
Oui, alors tout à fait. Alors déjà, il faut bien penser qu'on a un Facebook et je pense que les gens le savent peut-être pas forcément et il est possible de nous contacter via Facebook. Donc ça s'appelle tout simplement Maison de quartier Cernay Europe. Et c'est vrai que vous aurez toutes les informations. On l'alimente très régulièrement sur nos activités, nos animations. Sur les horaires, par exemple, en ce moment d'ouverture qui ont un petit peu changé. Voilà, les gens peuvent se tenir au courant comme ça. On a la nouvelle chaîne YouTube, toujours. Et puis, vous pouvez nous téléphoner ou par mail aussi, il est possible de nous joindre. Donc, l'email, c'est cernay-europe@maisondequartier-reims.fr. Le téléphone, c'est 03 26 07 39 11.
C'est la fin de notre sixième et dernier épisode radiophonique. Il se passera encore beaucoup de choses en 2021, à n'en point douter. Peut-être devriez-vous ouvrir bien grand les yeux et les oreilles, afin d'être des acteurs et des actrices impliqués dans tous ces projets qui se déroulent juste sous nos fenêtres. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ces émissions en podcast sur le site Radio Primitive.